fait beau, il fait chaud. Et on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast de Moodstep pour parler de management et de savoir-être. Je suis Joanna Kellen, opératrice de Turbine à Bonheur, et aujourd'hui je reçois Jordan, et je ne prononcerai pas son nom, il le fera lui-même, qui est coach. Nous allons parler d'authenticité, retrouvons-le tout de suite. Bonjour Jordan.
Bonjour Joanna.
Jordan, comment se prononce ton nom de famille ?
Zanguenet.
Zanguenet. C'est originaire d'où ce nom ?
C'est originaire, alors c'est de Normandie, après c'est venu aussi d'Iran, donc ça vient un peu de partout là.
Normandie-Iran, ça c'est un sacré panaché.
Ouais, ouais tout à fait.
Nous allons aujourd'hui parler d'authenticité, mais avant de commencer, bah justement on a commencé un peu avec ton nom, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire d'où tu viens, ce que tu fais ?
Ouais. Alors, d'où je viens, déjà, je viens de la région parisienne. J'étais avant consultant dans les ressources humaines. Ma spécialité, c'était la conduite du changement. Et la plupart du temps, je formais des managers aux différents changements organisationnels, différences de processus dans leur mode de travail. Et c'était un travail que j'ai exercé pendant plus de 3 ans. Et donc je dis j'étais consultant parce que je ne le suis plus, et j'étais salarié et je ne le suis plus aussi parce que j'ai créé maintenant ma société où j'aide maintenant les personnes à se reconnecter à elles-mêmes, c'est-à-dire les aider à trouver leur voie, à se reconvertir professionnellement et prochainement à proposer des formations auprès des managers parce que le métier de formateur me manque. Donc, à proposer des formations aux managers pour réinnover leur management et être aussi plus authentiques dans leur approche, notamment avec leurs équipes.
Je crois que tu t'es formé, c'est au Canada, non ?
Oui, je me suis formé à la PNL à la PNL et au coaching au Canada. Je suis parti là-bas tout simplement parce que j'ai préféré directement apprendre à la source, plutôt que d'avoir un copier-coller de ce qui serait fait au Canada, aux États-Unis, mais en France. Et puis la philosophie canadienne et puis leur état d'esprit, leur mentalité me correspondaient beaucoup plus que ce qui se faisait en France. Voilà, c'est une grosse généralité, mais voilà.
Tu ne l'as pas vraiment fait dans le cadre d'une école, tu as trouvé un mentor en fin de compte.
Absolument, ouais. Oui.
Tu peux nous en parler un peu ?
Oui, alors ce mentor, il s'appelle David Bordez. C'est un coach montréalais qui, lui, est spécialisé dans plusieurs pratiques. Mais sa spécialité, c'est la programmation neuro-linguistique, la PNL.
Tu peux peut-être expliquer ce qu'est la PNL pour les gens qui ne connaissent pas ?
Oui, alors la PNL, c'est l'étude de la subjectivité humaine, c'est-à-dire tous les schémas de pensée, nos fonctionnements internes qu'on peut avoir, qui sont régis aussi par des convictions, notre perception du monde, de soi-même, des autres. Et c'est une pratique qui a été, enfin une pratique si on peut appeler ça comme ça, qui a été développée après les années 50 et par deux Américains. Et c'était une pratique qui me correspondait tout à fait par rapport à ce que je voulais faire, par rapport à mon activité et puis par rapport aussi à moi-même. Voilà.
Tu voulais parler d'authenticité, comment gagner en impact auprès de son équipe. Comment on gagne de l'impact auprès de son équipe ? Et comment l'authenticité peut nous aider à faire ça ?
Déjà, une question toute simple. Est-ce que tu te rappelles des managers, à l'époque où tu étais salarié, des managers qui t'ont tiré vers le haut ?
Oui. Ouais. Je pense tout particulièrement à un.
Oui. Et qu'est-ce qu'il avait comme caractéristique, ce manager ?
Par exemple, j'ai découvert, mais en l'interrogeant, hein, parce que je n'avais pas compris, notamment qu'il s'adaptait à chaque personne, en fait. Mmh. Et il me protégeait aussi, ce que j'aimais beaucoup chez lui, donc il avait compris comment je fonctionnais, je pense. Et il me protégeait d'une partie de la pression de l'entreprise pour que je puisse faire mon travail assez plutôt sereinement.
Oui, et ben voilà, bon, en fait... Pour moi, être authentique, c'est exactement ça. C'est-à-dire que derrière la notion d'authenticité, il y a cette notion du service. C'est-à-dire que j'appelle ce leadership qui est fondé sur le service, le leadership authentique. Parce que un manager, à la base, il doit être au service de ses équipes. pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit productive, pour pouvoir faire en sorte que elle fasse tourner l'entreprise et que tout le monde soit motivé, quoi. D'ailleurs, il y avait même, il me semble qu'il y avait une citation de Albert Einstein qui disait que, si je ne me trompe pas, qu'il est grand temps de substituer à l'idéal du succès l'idéal du service. Ouais, c'est ça. Et pour moi, donc, un manager, c'est doit avoir cette qualité d'être au service de son équipe et être totalement présent par rapport à ça.
Mais qu'est-ce que tu mets sous le terme service?
C'est ce que j'appelle être au service de son équipe. C'est ça passe par l'exemplarité, pardon. Je vais y arriver. L'exemplarité, bah, pour moi, ça permet de rendre explicite. De rendre explicite pour les autres les valeurs qui orientent sa conduite et d'agir de manière cohérente.
Mais là, tu parles de la communication de la vision.
Bah, par rapport à la communication de la vision, mais même c'est une posture en soi. C'est une posture parce qu'il convient pour les dirigeants déjà d'intégrer ces valeurs comme une composante explicite de leur système de leur système de valeurs personnelles. Et c'est pour moi, c'est une démarche qui est tournée vers l'intérêt collectif. Car t'implique en quelque sorte des règles de valeurs qui sont reconnues par tous, comme par exemple le respect qui est une valeur reconnue par tous.
Du coup, pour essayer de comprendre, c'est quoi cet autre manager qui ne serait pas dans cette authenticité et surtout qui ne serait pas au service, il ressemble à quoi?
Ouais, bon, on en a tous déjà eu, hein, des personnes comme ça, tu sais. C'est ce genre de manager à qui tu vas t'adresser, qui est là sans être là. Et qui te répond par des onomatopées à la Ardisson en disant ouais, et qui te regarde pas dans les yeux, qui fait autre chose et qui te demandera à la fin de lui faire un mail parce que il a pas entendu ce que tu lui as dit. Et je dis bien entendu et pas écouté, car pour moi, le mot entendre comprend à la fois le mot écouter et comprendre en même temps.
Mais je comprends, mais maintenant, cet homme-là, là, celui qui n'écoute pas, quelque part, il est authentique, avec lui-même. C'est peut-être que c'est juste son tempérament, sa
Ouais,
seule capacité d'être, et sa capacité d'être s'arrête là, quoi.
ouais, voilà, mais il ne faut pas confondre du coup l'authenticité vis-à-vis de soi-même et l'authenticité vis-à-vis par rapport à son management. C'est-à-dire qu'il convient d'être authentique, ok, avec soi-même, mais authentique dans son management et avec les autres, et authentique avec son travail. C'est-à-dire qu'il convient surtout d'être pleinement conscient de tout ce qui constitue ta personne, ok? Mais de ton rapport au monde, comme tes pensées, tes émotions et tes attitudes, et surtout tes attitudes. C'est en fait, c'est d'arrêter de se raconter des bobards. Car pour mettre en place un changement, tu vois, il faut être authentique. En général, comme je te disais, il faut être authentique dans son management avec les autres.
Mais pourquoi il faut? En quoi être
Parce que.
authentique? Je veux dire, il y a plein de gens qui fonctionnent autrement. Beaucoup d'entre nous portent des masques au travail. Je discutais encore il y a quelques jours avec un ami qui me disait, moi j'ai une personnalité au travail et j'ai une personnalité dans ma vie personnelle.
Oui, mais au niveau de personnalité, ça c'est autre chose. Tu vois, c'est déjà la première question à se poser pour être authentique, c'est de savoir bah, pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Tu vois, c'est la question du sens de son job. Et à cela, on sait si la personne, elle est juste bah, physiquement présente, comme je t'ai donné l'exemple du manager tout à l'heure, ou si elle est partiellement engagée ou totalement engagée. C'est pour ça que cette notion de service, elle est très importante aussi par rapport à son équipe.
Bon alors comment on devient plus authentique?
Bah, comme je te disais, bah, ça passe justement par le fait d'être orienté, comment dire, être orienté naturellement et positivement vers son équipe, quoi. Donc c'est, il faut
Mais
faire preuve.
ça se développe comment ça?
Bah, c'est une vocation.
Mais alors là, tu es en train de me dire, si tu me dis c'est une vocation, tu es en train de me dire que pas de bol quoi, si tu l'as pas. C'est-à-dire que c'est une volonté, tu veux dire, ou...
Mais c'est une volonté, c'est une vocation. De toute manière, non, c'est pas de bol. Mais tu sais que tu as des managers qui justement, vont prendre directement leur rôle pleinement. Ils vont rentrer dans leur rôle pleinement. Ils vont vraiment l'incarner. Ils vont faire preuve de capacités psychologiques positives, de raisonnement moral, mais pendant des événements critiques, hein, de leur vie, professionnelle, hein, de la vie d'un manager. Mais qu'on vient de cultiver la conscience de soi. Une perspective morale intériorisée, un équilibre et surtout une transparence relationnelle. Parce que c'est surtout ça qui est vraiment très important, quoi. En fait, tu préserves ton authenticité personnelle durant les défis et tu développes celle des autres.
Comment tu fais ça, puisqu'il y a, y a différentes volontés qui se rencontrent dans une entreprise, entre la volonté de l'entreprise elle-même, qui est une personne morale, mais qui est quand même une personne, la volonté des différentes personnes dans l'équipe, de ton patron, même si tu es manager, voilà, tu as sûrement quelqu'un, tu as toi-même un patron ou un manager. Donc, être authentique, ça veut dire ne plus faire de compromis, j'arrive toujours pas à complètement cerner ce que tu mets derrière le mot authentique.
Derrière le mot authentique, alors bon, clairement, en fait, derrière le mot authentique, c'est la notion de vocation, donc vraiment être totalement engagé dans ce qu'on fait, et la notion de service, donc être engagé dans ce qu'on fait, mais être aussi engagé vis-à-vis de son équipe. Ça, c'est les deux principes. L'ingrédient fondamental de tout leadership, tu vois, c'est la relation interpersonnelle. Je pense que tu seras d'accord avec moi par rapport à ça, quoi. La dynamique collective, elle va se créer par la naissance du lien. Et la nature et la qualité de ce lien, bah, c'est la base de tout leadership. Justement, tu m'as donné l'exemple tout à l'heure de ton ancien manager qui, lui, s'adaptait en fonction de son équipe, des personnes de son équipe, et avait compris leur fonctionnement. Ouais, c'est se tourner vers les autres de manière positive, mais vraiment pour savoir bah, qui est la personne et pas uniquement la considérer comment dire, un pion, quoi, c'est-à-dire. Parce que la pire des choses, c'est de réduire une personne à son utilité, à ce qu'elle peut nous apporter. Et ça, c'est du gâchis. Ne pas la considérer en tant qu'être humain, ça en revient à l'instrumentaliser, en quelque sorte, en faisant devenir bah, ce dont nous avons besoin et en réduisant sa personne à son utilité.
En fait, je me dis en fait que bah, il y a des gens qui ont cette fibre-là, hein, qui sont dans cette relation-là, et puis il y a des gens qui sont fermés ou qui n'ont pas cette vision. Comment on peut les ouvrir à cette vision-là si elle est si capitale, sachant que il faut avoir le désir de changement pour s'y ouvrir?
Ouais, il faut avoir le désir de changement, mais enfin, de toute manière, enfin, la plupart du temps, tu sais, il y a des managers qui, comment dire, ils sont bloqués dans un modèle de management. Je sais pas si tu sais un peu, il y a quatre grands modèles de leadership.
Bien sûr, moi je les connais tous, mais on peut les rappeler peut-être. Non, je ne les connais
Ouais,
pas, je les connais pas.
il y a quoi? Il y a le modèle déjà l'approche structurelle qui où l'entreprise est vue comme une usine. Donc c'est très centré sur les chiffres, l'unité de mesure, c'est très structurel et basé sur la rationalité et où les managers sont des analystes. Voilà, ce sont des analystes. Il y a le modèle bah, l'approche RH, comme on peut le voir dans pas mal d'entreprises, où l'entreprise est vue comme une grande famille. Donc elle est très orientée sur l'humain, l'attention est portée autour des gens. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le modèle, donc j'ai parlé du structurel. Il y a le modèle où l'entreprise est vue comme une jungle, c'est-à-dire que c'est très politique, c'est axé sur les principes de pouvoir. Et puis, tu as le modèle où l'entreprise est vue comme un sanctuaire, comment dire? C'est-à-dire d'un point de vue symbolique, c'est axé sur l'état d'esprit. La culture et les leaders deviennent des héros, des mythes, comme par exemple Steve Jobs. Ça, c'est il est devenu un héros. Donc là, pour un manager, le souci, il va résider dans le choix d'un modèle. Et si certains modèles semblent mieux correspondre à la façon de raisonner du manager, alors que d'autres, bah, ça le fait sortir de sa zone de confort, en quelque sorte, bah, il convient d'apprendre à appliquer ses approches et de trouver un équilibre par rapport à ça.
Donc de trouver le modèle qui nous correspond.
Ben, de trouver le modèle qui te correspond forcément par rapport à tous ces modèles-là. Parce qu'un manager, on va lui demander, qu'est-ce qu'on va lui demander? On va lui demander d'être un gestionnaire, mais à la fois un leader et aussi un stratège. Donc on va lui poser cette question-là, on va lui demander s'il est capable de prendre toutes ces casquettes-là.
Donc il est un mix de ces différents styles de management?
Ah bah ben, tout à fait, ouais. Oui.
D'accord.
On l'a bien vu de toute manière que de juste rentrer dans un modèle de management, ça convient pas parce qu'il y a différentes écoles et puis les besoins sont différents. Après, forcément, c'est différent par rapport au domaine d'activité. Et encore, je pense que se cantonner uniquement à un modèle de management, ça voudrait dire qu'on a affaire à une seule catégorie de personnes et que les gens n'ont pas évolué, leurs besoins n'ont pas évolué. Donc ce serait vraiment catégoriser les gens. Et aujourd'hui, il y a suffisamment de bouquins sur le management de personnes qui traitent du management aujourd'hui pour expliquer que, bah, au final, il n'y a pas de recette miracle, hein. C'est juste trouver le management qui te correspond au mieux. D'où aussi
D'accord.
c'est un niveau d'authenticité.
Donc du coup, je suis manager et je te fais appel à toi. Comment est-ce qu'il faut que je détermine, pour aller vers plus d'authenticité, il faut que je détermine quel style de management j'ai et comment je fais.
Ouais, comment est-ce que tu fais?
C'est-à-dire que je fais appel à toi pour aller vers plus d'authenticité. Quelle direction je prends, comment tu vas m'aider à trouver... à être plus authentique.
Bah, par rapport à ta posture, déjà, quoi, et puis derrière la posture, il y a pas mal de croyances, c'est-à-dire que faire un état des lieux, en quelque sorte, forcément, ça c'est classique, hein, pour permettre aux gens de se rendre compte de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne pas, il convient de faire un état des lieux, quoi. Mais il convient aussi d'être, comment dire, je rendrais la personne plus congruent. C'est-à-dire que effectivement en entreprise, on est contraint parfois d'être porte-parole d'un message auquel on n'adhère pas totalement, quoi. Et être authentique dans ce genre de cas, c'est difficile. Donc on peut pas être d'accord sur toutes les politiques dans l'entreprise. Et le plus important, c'est surtout d'être en accord avec les valeurs que l'on partage avec l'entreprise. Donc la question de l'harmonie, de la congruence, elle est essentielle car elle crée l'authenticité. Mais en gros, si tu recherches, si tu recherches à être authentique dans ta propre harmonie, bah, tu vivras en accord avec tes croyances et tes stratégies que tu mettras en place au travers de ton comportement et de ta communication.
Donc, il faut que je rende consciente ses valeurs et ses croyances.
C'est vraiment comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un travail de pleine conscience de soi, mais de pas être uniquement mobilisé par ses intérêts, parce que aujourd'hui, malheureusement, on travaille pour soi, quoi. Enfin, faut dire les choses clairement, on sait pas travailler ensemble. Enfin, c'est triste à dire, mais on voit qu'il y a beaucoup de managers ou de patrons qui sont soit dans le contrôle à outrance, ou soit ils sont dans la délégation à outrance pour se délester de plein de choses. Mais il y en a très peu quand même qui arrivent à trouver un équilibre entre ces deux, c'est-à-dire à faire confiance à leurs salariés, à leur potentiel, et les considérer comme des personnes qui peuvent apporter de la valeur à l'entreprise. Et aujourd'hui, bah, je l'ai bien vu dans pas mal d'entreprises, hein, dans toutes les entreprises où j'ai pu former des personnes, où travaillant ensemble, on a du mal à le faire.
Donc en étant plus authentique, on travaille mieux ensemble.
Tout à fait, ouais. Et si tu travailles avec une personne qui voit que ses intérêts, qui dissimule sa façon de voir les choses ou qui dissimule ses intentions, est-ce que tu auras vraiment envie de travailler avec ces personnes-là?
En fait, ça peut être invisible, ça dépend de ta sensibilité et ta capacité à capter l'autre. Donc tu pourras sentir intuitivement qu'il n'est pas clair ou qu'il n'est pas franc, mais beaucoup de gens ne s'en rendraient même pas compte, je pense.
Tout se sait, hein. Tout se sait. Eh oui, c'est comme si tu me disais que, enfin moi j'aime bien assimiler l'entreprise à une relation sentimentale. De toute manière, il y a beaucoup de points de similitude, hein. Si tu es avec une personne, déjà tu passes énormément de temps, tu passes à 8 à 12 heures par jour, ça dépend des métiers en entreprise, tu as le temps de voir comment est-ce que fonctionne la personne, si elle est authentique avec toi ou pas, et puis si elle te dissimule des choses ou pas. De toute manière, les managers, ils ont tellement la tête sous l'eau qu'ils peuvent pas se souvenir de tout ce qu'ils disent. Tu vois, en général, on dit qu'en général, une personne qui va dire quelque chose, ça va s'imprégner, ça va être retenu, ça va être sauvegardé, quoi. Et tu peux être sûr qu'un salarié va toujours trouver des incohérences par rapport à la façon d'être du manager.
Donc tu veux dire, on a tout intérêt à être authentique parce que comme les enfants, de toute façon, les gens autour de nous captent qui nous sommes vraiment, c'est ça?
Bah, tout à fait, hein.
D'accord.
Ça se sait, enfin, du moins, enfin, je l'ai bien vu, je me souviens des conversations qu'on avait avec mes anciens collègues consultants. On savait tous, on était tous au taquet à chaque fois qu'un manager n'était pas cohérent avec lui-même ou cohérent avec ce qu'il avait dit ou par rapport à sa façon d'être. Le manager, il est quand même très en avant, il est mis sur la scène et le moindre fait et geste, on va lui reprocher, quoi. Donc, je pense qu'il a plus à gagner à être authentique dans sa façon d'être, à être tourné autour des autres, vers les autres, pardon, plutôt que de juste travailler pour soi. Parce que les valeurs du travail en équipe, que prônent certains managers, bah, ils s'arrêtent à la sortie de la salle de réunion, hein. Parce qu'ils n'ont pas su mobiliser leurs équipes autour d'un but commun, tout en étant ouverts à leur environnement. C'est pour moi la raison de la performance.
Superbe, très très belle conclusion qui résume bien, je pense, ce que tu essayais de faire passer. Est-ce que tu es prêt pour le questionnaire?
Oui, vas-y.
Je sens dans ton rire que tu as un peu peur et tu as raison, car les questions sont très compliquées. Attention, la première. Quelle est la pire. Alors, j'ai fait une interview avec Jérôme Waro et je trouve qu'il a eu une très belle formule. Donc, je vais la prendre dans ma question. Quelle est la meilleure erreur que tu aies faite dans ta carrière et quelles leçons en as-tu tirées? Au lieu de dire pire erreur, meilleure erreur, car bien sûr, ce qu'il y a dans cette question, c'est qu'on apprend de nos erreurs et que elles sont d'énormes sources d'apprentissage importantes pour notre évolution.
Absolument, oui. Bah, ma meilleure erreur, ce serait de ne pas avoir été assez authentique, justement. Tu vois?
Ah, tu ne l'étais pas quand tu étais salarié, c'est ça?
Bah non, c'était mon premier CDI, donc forcément, quand c'est ton premier CDI, tu essayes de faire le dos rond, de faire plaisir à tout le monde. Et dans ce genre de cas, bah, quand tu essayes de faire plaisir à tout le monde, que tu réponds aux attentes des autres, bah, tu te régules avec des éléments extérieurs, donc tu deviens en quelque sorte inauthentique, quoi. Donc, moi, j'étais pas vraiment en accord avec mes valeurs, avec mes préférences et mes besoins. Et en général, ceux et celles qui n'ont pas beaucoup développé cette dimension de l'authenticité auront tendance à agir surtout pour faire plaisir aux autres ou pour leur plaire. Et ils agiront pour obtenir des récompenses ou éviter des punitions, et ce, bah, même si cela implique d'agir faussement. Donc,
Mais
voilà.
je te dirais, est-ce que quand on est authentique, on prend pas aussi un risque quand on exprime vraiment ce que l'on pense, on peut se prendre aussi des retours de bâton.
Après, il convient aussi de ne pas non plus balancer les choses brutes de décoffrage. Comme tu l'as dit, en fait, le mot vraiment qui est le mot-clé, c'est s'adapter. Tu t'adaptes, si tu gardes les choses pour toi, tu es un manager, tu gardes les choses pour toi, ça va te peser, et puis tu vas envenimer les choses, et puis à chaque fois que quelqu'un aura fait une erreur, tu le remarqueras, et puis ça va alimenter à chaque fois cette sorte de trahison personnelle que tu te crées dans ta tête, plutôt que de dire les choses clairement à tes équipes ou à ton collaborateur, tu vas le garder pour toi. Ben ça, c'est pas une bonne chose, parce que t'es manager, il convient de dire les choses, mais de manière
Oui,
ben,
mettre la forme.
diplomate, oui, mettre la forme. Donc il convient aussi de s'adapter. Ouais.
Deuxième question, quelle technique ou outil t'a le plus fait avancer personnellement ou professionnellement?
Oh ben on en parlait tout à l'heure, c'est la PNL. La
La
PNL,
PNL.
parce que le fait d'étudier justement tout ce qui était subjectif à l'humain, le fonctionnement du cerveau, ça m'a permis d'avancer. Parce que ça répondait aux questions du moment que j'avais à cette époque, donc c'était en 2012. Et j'avais besoin de sortir de ce mode de pensée très limitant que j'avais auparavant. Bon, c'est un peu normal, hein, il y a beaucoup de croyances qui sont culturelles, qui ne nous appartiennent pas. Il y en a beaucoup des croyances limitantes en France, et c'est aussi pour ça que tu vois que je suis parti au Canada. Mais par exemple, une croyance limitante, c'est de dire que la créativité, c'est limitée au monde de l'art, au monde du cinéma, tout ce qui est artistique, la musique, toutes ces choses-là. Et j'ai pas mal de clients qui pensent ne pas être créatifs, alors qu'ils font de la cuisine, il y en a plein qui font du sport. On entend souvent des présentateurs dire que tel joueur est très créatif. C'est de la créativité, tout ça. Et ça,
Oui, ou même trouver une stratégie d'entreprise demande de la créativité, non?
mais tout à fait, oui. Tout à fait. Et cet aspect-là, justement, il n'est pas assez mis en avant.
Est-ce que je rajoute une sous-question? Non, pas sous question, c'est négatif. Je rajoute un alinéa à cette question. Est-ce que dans la PNL, il y a un outil concret qui t'a particulièrement marqué?
Dans la PNL, ouais, c'est surtout la visualisation. La visualisation est un outil qui... Enfin, c'est un mélange de visualisation et de conscience, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un exercice qui est relativement sympa à faire pour se libérer de certains comportements, c'est-à-dire c'est l'exercice de l'intention positive. En fait, il convient de prendre en compte le côté conscient et le côté inconscient. C'est-à-dire que dans la vie, on a envie de faire des choses, mais on n'y arrive pas, ou on veut ne plus faire quelque chose, mais on continue à le faire. Et entre les deux, il y a toujours une intention positive qui existe, qui fait que bah, on est un peu tiraillé, on est entre deux chaises et on n'arrive pas à avancer, quoi. On reste un petit peu bloqué. Et cet exercice-là, il était vraiment très inspirant. Ouais.
Ok, question suivante. Quelle est selon toi la qualité primordiale à développer pour être un bon manager?
Oh, il y en a plein, il y en a plein, mais surtout je.
La qualité primordiale. Bon, une qualité.
Bon, la qualité, ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure. La qualité primordiale, c'est vraiment tout ce qui est transparence relationnelle, tout ce qui est lié à la communication. Parce que la plupart du temps, enfin, tous les problèmes qu'il peut y avoir entre manager et collaborateurs, c'est principalement dû à des manques de communication ou des communications défaillantes. Donc, je pense que oui, pour moi, c'est vraiment la qualité à développer.
Mais ça veut dire qu'il faut avoir une vision très claire de ce qui nous motive, de ce que l'on pense, parce que des fois, les problèmes de communication viennent aussi d'une méconnaissance de soi. On ne se rend pas compte de ce que l'on veut ou de ce que l'on souhaite exprimer, et du coup, la communication est brouillée.
Ben oui, mais là, ça veut dire qu'il y a une défaillance. C'est comme si tu me disais que voilà, un sportif, il n'a pas réussi à être sur le podium parce que il n'a pas assez, il s'est pas assez entraîné, ou il n'a pas assez mis en avant sa vision, ce qu'il voulait, ses capacités, toutes ces choses-là. C'est tout un travail de réflexion. De toute manière, dans la vie, tout passe par un travail de réflexion et tout passe par soi. Pour ce genre de métier et de responsabilité où il convient de s'adresser à des hommes, à des êtres humains, bah, il convient déjà de savoir comment est-ce que nous on fonctionne pour pouvoir ainsi comprendre l'autre. Si on ne sait pas déjà la plupart de son, on connaît pas, on a la méconnaissance de son potentiel, on peut pas comprendre les autres. C'est juste pas possible. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, la personne qui est manager et qui prend pas le temps de cette réflexion-là, bah, c'est qu'il y a une défaillance quelque part.
D'accord. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué que tu pourrais nous conseiller?
Ouais, bah le livre justement que j'ai dévoré dernièrement, qui est de Robert Papin. Et Robert Papin qui est un peu, il aime pas ce terme-là, mais il y a beaucoup de gens qui le considèrent comme le pape du management, le pape de la création d'entreprise. Ça a été le créateur de HEC Entreprise. Et je l'ai rencontré sur un salon d'entrepreneuriat. Et il m'a dédicacé un de ses bouquins qui est, comment il s'appelle, Former de vrais leaders. Voilà. Former de vrais leaders, et qui est vraiment un super bon bouquin parce qu'il rentre vraiment dans le tas. On sent qu'il n'a plus rien à prouver, qu'il casse un petit peu certaines croyances et certaines choses qu'on entretient encore dans le milieu managérial. Donc il y a pas mal de tabous qui sont cassés et on peut être... Que, enfin, on ne peut être que d'accord avec ce qu'il dit dans ce livre.
D'accord, Robert Papin. Ce sera dans la description de ce podcast pour retrouver toutes les références et retrouver aussi cette citation. Peut-être une citation qui t'inspire.
Ouais, c'est celle de... Comment il s'appelle? Mince, c'était Jacques Brel, voilà.
Ah, super.
Chercher. J'aime bien cette citation qui dit que avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent, le reste, c'est de la sueur.
Merci beaucoup Jordan. Où est-ce que tu es blogueur? Tu fais pas mal de vidéos qui sont très bien faites d'ailleurs parce que tu essayes
Merci.
différents styles de vidéos. Autant interview que cette dernière vidéo que j'ai vue que tu as fait qui est un peu mise en scène.
Oui, c'est ça.
Je vois que niveau créativité, tu tentes plein de choses, c'est très très chouette. Donc peut-être tu peux nous rappeler l'adresse de ton blog ou de ton site internet?
Alors, mon site internet, c'est osebrier.com. Et puis, j'ai une chaîne YouTube aussi qui porte le même nom, mais qui s'adresse un peu plus aux personnes, soit aux particuliers, aux salariés. Et puis, j'en ai une seconde qui est en cours de création, qui là, va s'adresser un peu plus au manager et qui, je pense, aussi portera le même nom, qui sera Osébrier, mais management, je pense. Je l'appellerai comme ça.
Et ça va consister en quoi? C'est-à-dire quelle va être la différence? Juste les sujets ou quel format ça aura?
Ça s'adressera bah, déjà la cible. La cible, ce ne sera pas la même.
D'accord.
La deuxième chaîne s'adressera plus au manager, aux personnes qui souhaitent sortir un peu comme je disais hein, par rapport au livre de Robert Papin, développer cette vision du management et puis amener peut-être à un nouveau à une nouvelle étape de réflexion.
Et juste pour que les gens sachent, oui, tu fais aussi des petits formats, style 5 conseils pour, où tu es face caméra. Donc, tu as vraiment et tu fais des interviews d'entrepreneurs, d'autres personnes qui sont là plus longues. Donc, voilà, ok. Donc, c'est une exclusivité mondiale là que tu nous annonces que tu vas
Absolument.
avoir une deuxième. Ah là là, je suis fière.
Ça réservé pour toi.
Merci, Jordan.
Je t'en prie.
En tout cas, merci beaucoup de nous avoir consacré du temps. Et puis, j'invite tout le monde à aller te rejoindre sur ton blog et ta chaîne YouTube et de vous abonner. Merci beaucoup, Jordan.
Merci, Johanna.
Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner sur iTunes, de laisser des commentaires et des notes. Ça augmente la visibilité du podcast. Je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt.
Merci.